Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Walk with me, love. Walk with me. All along this tear's journey, won't you walk with me?
Bonjour, et si la pandémie avait permis de mettre sur pause la frénésie urbaine? Ce qui est sûr, c'est que de confinement en confinement, le besoin de nature se fait fortement sentir. Dans le sud de l'Italie, en Sicile, les palermitains sont ainsi de plus en plus nombreux à découvrir les bienfaits et les plaisirs de la randonnée. Notre correspondante Cécile Debarge a suivi un groupe d'amis en excursion près de Palerme.
Aux portes du village de Pioppo, un écriteau de bois indique le chemin à suivre. Pour rejoindre la cascade Nakanika, prendre tout droit le long du ruisseau et suivre le chemin couvert de feuilles mortes.
La seule fois où on a fait une excursion comme ça, c'était il y a 3 ou 4 ans, pour la traditionnelle journée du lundi de Pâques. En général, le seul moment où on faisait ce genre d'activité, c'était pendant les jours fériés. Mais le samedi ou le dimanche, on restait en ville.
Guglielmo a 35 ans et il le reconnaît, ce n'est pas vraiment un adepte de la randonnée. Déjeuner au restaurant, visite de musée, soirée chez des amis et même week-end à l'étranger, les activités qui occupaient ces week-ends ne sont plus à l'ordre du jour avec les restrictions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19.
Bien sûr, le Covid nous a empêchés de faire plein de choses, mais en réalité, on peut continuer à faire tout un tas d'activités saines et puis être en contact avec la nature, ça fait vraiment du bien et c'est indispensable. Faire du sport, marcher.
Après une petite heure de marche et des traversées du ruisseau parfois périlleuses, Guglielmo et ses amis arrivent à la cascade. Quelques photos plus tard, il est temps de rebrousser chemin pour pique-niquer au milieu du sous-bois. Au cours de la journée, les 6 randonneurs du samedi n'ont croisé qu'un couple avec un enfant. Une bonne surprise, tant ces derniers mois, les sentiers de randonnée ont été pris d'assaut, explique Karine, une palermitaine de 36 ans.
Quand on était en zone orange, qu'on ne pouvait se déplacer qu'à l'intérieur de la ville, il arrivait très souvent qu'on soit nombreux. Je ne suis pas la seule à avoir eu cette idée. Tout le monde a redécouvert la randonnée et les promenades dans la nature.
Depuis l'automne, les excursions proposées par les associations de randonnée de Palerme sont souvent complètes plusieurs jours à l'avance. Sur Facebook, les offres pour des randos sont de plus en plus nombreuses. Cette fois, Karine a donc préféré partir seule avec son groupe d'amis en organisant l'itinéraire sur Internet.
Depuis que je suis toute petite, je fais des balades en montagne, mais j'avais abandonné cette habitude avant la pandémie parce que je préférais voyager et aller à l'étranger. Mais vu qu'avec les restrictions, on ne peut pas sortir soit de la ville, soit de la région, j'en profite pour découvrir des endroits inédits et être en pleine nature.
Personne parmi les 6 amis ne connaissait la cascade Nakanika, que l'on rejoint pourtant en 3 quarts d'heure de voiture à peine depuis Palerme. Pippo y vit depuis 35 ans, il n'avait jamais entendu parler de cet endroit.
Peut-être que le fait d'être contraint à nous arrêter, ça aide beaucoup. Parce que ça permet de retrouver un rapport à la vie différent de celui qu'on avait avant. Et dans un moment comme celui-ci, où on peut respecter la distanciation sociale, retirer le masque et donc être plus à l'aise avec soi-même, on redécouvre la nature. Je crois que la pandémie nous a offert cette possibilité.
Chaque empêchement offre une nouvelle jeunesse. C'est le proverbe sicilien que se plaît à citer Pippo pour retenir de cette pandémie une note positive.
L'habitude de vivre en ville, d'être toujours occupé, de travailler, ça nous a fait oublier qu'il existait autre chose et qu'en sortant des villes, on pouvait aussi sortir d'un certain style de vie pour en adopter un autre, plus proche et plus respectueux de la nature, et en profiter. Alors des randonnées comme celle-là, j'en referai 10, même 100.
Rendez-vous est pris pour Guglielmo, Karine et Pippo. Cette randonnée ne sera pas la dernière. Reste à savoir quelles seront les restrictions en vigueur le week-end prochain en Sicile pour recommencer.
Le ski alpin, lui, voit sa cote baisser. Entre le Covid, l'évolution du climat et celle de notre rapport à la nature, les professionnels du secteur s'activent pour diversifier le tourisme d'altitude. Mais en attendant, les remontées mécaniques continuent de faire le bonheur des amateurs de vitesse, dans les rares pays du moins où elles sont restées ouvertes, en Suisse, en Autriche ou encore en Suède, où Frédéric Fauss s'est rendu dans la station de Stutten, à la frontière norvégienne.
À l'heure où l'Europe se reconfine face à la troisième vague, Klaas skie au pied avec sa famille, n'a pas renoncé à ses vacances. Il arrive tout droit de Stockholm.
C'est à 450 km. On met 5 heures en voiture. On est arrivé ce dimanche et on repart dimanche prochain. 6 jours de ski.
À Stutten, une station suédoise située à la frontière norvégienne, rien ne semble avoir changé pour les skieurs. Ils dévalent les pistes abruptes typiques de ces régions de fjell, qui offrent une vue panoramique sur une immensité de lacs et de forêts. Ils se retrouvent toujours avec plaisir devant des abris en rondins, où des braseros ont été allumés pour absorber des litres de café. Pourtant, les habitués des stations suédoises ont dû se plier à de nouvelles règles. Magnus Dovalius est le chef du marketing de Stutten.
Vous pouvez tout faire en ligne. Pour manger, vous passez la commande en ligne, pour acheter vos forfaits aussi. Quand vous faites le check-in à un hôtel, c'est un SMS qui vous autorise à venir à la réception. Toutes les stations suivent les mêmes règles. Donc, c'est facile pour les Suédois. 1,5 mètre de distance pour tout le monde. Il y a des panneaux partout.
La saison dernière, les stations avaient dû fermer après les vacances de février. Mais ce cahier des charges leur a permis cette année de rester ouverte. À en croire Titi Rödling, porte-parole de l'organisation qui rassemble les 200 stations de ski de Suède, les pertes ont finalement été minimes.
La saison 2019-2020, on n'a perdu que 13% sur les remontées mécaniques. Mais cette année, on a vraiment tout préparé et planifié pour que notre activité puisse se faire de façon sûre. Les stations ont beaucoup travaillé et embauché du personnel supplémentaire. Il y a eu un intérêt pour le ski.
Les stations suédoises ont également l'avantage d'être de petite taille, ce qui évite la congestion et de ne pas trop souffrir de la fermeture des frontières, car l'essentiel de la clientèle est suédoise.
Ce n'est pas comme dans les Alpes, par exemple. Ici, 90% de nos skieurs sont suédois. Ce marché intérieur est très fort.
Le constat des épidémiologistes, qui n'ont pas signalé de propagation accrue de l'infection dans les montagnes à Noël et en février, a achevé de convaincre Klaas.
Les distances sont respectées et les enfants ont besoin de faire de l'exercice, pas d'être enfermés tout le temps.
En Suède, il est possible de faire du ski bien après Pâques. C'est même à cette époque, au nord du pays, que les conditions sont les meilleures.
Direction à présent la ville la plus polluée d'Europe, selon une récente étude. Elle s'appelle Orzechie et se trouve en Pologne, en Silésie, bassin minier d'un pays qui reste très dépendant du charbon. Là-bas, beaucoup d'habitants brûlent encore pour se chauffer du charbon de mauvaise qualité, des déchets, voire du plastique, au détriment bien sûr de leur santé. Le gouvernement s'est emparé du sujet sous l'impulsion des écologistes, mais les mesures adoptées sont loin de suffire selon les associations. C'est un reportage de notre correspondante Sarah Bakaloglu.
Dans sa rue, dans un des quartiers les plus pollués de la ville de Rybnik, Klaudina Jakiewicz est capable de décrire comment chacun de ses voisins se chauffe. Charbon, parfois du bois ou des ordures, ce qui est illégal, rien n'échappe à la militante écologiste, les yeux rivés sur les fumées qui s'échappent des cheminées des alentours.
Vous pouvez voir la nouvelle cheminée de mon voisin, mais avant, il brûlait vraiment tout et n'importe quoi, comme du plastique. Et toute la fumée venait jusqu'ici à travers les fenêtres. L'an dernier, mon mari et moi, on était tellement fatigués de ces voisins qui ne changent rien, qu'on s'est dit, il faut qu'on déménage. C'est la seule façon de protéger nos enfants.
Car le combat de Klaudina Jakiewicz est aussi personnel. En octobre dernier, des scientifiques de l'université belge Hasselt ont analysé les particules de noir de carbone dans l'urine de 26 enfants de Rybnik, dont les enfants de Klaudina, et les ont comparés avec 26 enfants de Strasbourg en France. Le résultat est extrêmement préoccupant. Les petits Polonais ont 3 à 9 fois plus de substances cancérigènes dans leurs urines. Mais pas facile de convaincre son entourage des dangers du smog pour la santé.
Dans l'école de mes enfants, j'ai proposé il y a quelques années d'acheter un purificateur d'air pour la salle de classe. Les parents m'ont demandé à quoi ça servait, puis ils m'ont dit que ce n'était pas nécessaire. Ils ont dit que j'étais une terroriste écologique et que je disais n'importe quoi.
Ces dernières années, sous l'impulsion des militants et militantes écologistes, les Polonais sont devenus de plus en plus sensibles aux problèmes de la qualité de l'air. La ville de Cracovie a par exemple interdit le chauffage au charbon et au bois, mais aux alentours, la pollution reste présente. Dans le village de Kieratowice, ce jour-là, l'odeur prend au nez et à la gorge. Le militant Wojciech Czekpa nous emmène voir des poumons synthétiques installés par son ONG Polish Smog Alert. Ces poumons changent de couleur selon la qualité de l'air et en quelques jours, ils sont devenus noirs. Au volant de sa voiture, le Polonais d'une quarantaine d'années reste cependant optimiste.
À Cracovie, on voit qu'il y a vraiment un changement positif et on espère assister ici aussi à une amélioration, en particulier l'année prochaine, car en Silésie, il sera obligatoire de remplacer les appareils de chauffage les plus vieux. On sait que tous ne seront pas échangés, mais on espère qu'il y en aura beaucoup quand même et que cela va aider.
Mais certaines ONG sont plus sceptiques sur la réelle application de cette mesure, devant les résultats jugés insuffisants d'un grand programme national lancé par le gouvernement en 2018. Son nom, Air Pur, il permet aux habitants, grâce à un coup de pouce financier de l'État, de changer leurs chaudières les plus vieilles. Mais la bureaucratie est lourde, les procédures compliquées pour se faire rembourser. Et il y a surtout un problème de fond. Agnieszka Warsaw-Buchanan est avocate au sein de l'ONG Client Earth à Varsovie.
L'idée du programme est d'échanger les vieux poêles pour des poêles éco-design. Ça veut dire que les citoyens, pendant les 10-15 prochaines années, continueront de brûler du charbon au lieu de passer aux énergies renouvelables. Et l'un des problèmes est aussi d'inciter les gens à utiliser du charbon écologique. Si vous pouviez voir l'emballage, ils utilisent des couleurs vertes pour convaincre les citoyens qu'ils font une bonne action pour l'environnement. Mais Client Earth, avec des scientifiques, a prouvé que le niveau d'émission avec ce charbon-là restait très élevé. C'est de l'éco-blanchiment de la part des producteurs de charbon.
Pour l'instant, sur les 3 millions de chaudières polluantes que compte la Pologne, seules 70 000 ont été remplacées dans le cadre de ce programme gouvernemental.
Sun tanning, do nothing.
Ne rien faire et le faire bien. C'est le sujet de notre chronique en un mot qui nous conduit cette semaine aux Pays-Bas, où l'on découvre le verbe « niksen ». « Niksen » signifie « ne rien faire » en néerlandais. C'est une pratique très en vogue chez les coachs, presque un art de vivre, comme nous l'explique notre correspondante à La Haye, Anne Leray.
« Niksen », c'est « ne rien faire » au sens positif du terme, c'est-à-dire « sans culpabiliser ». Un concept proche de la slow life qui nous invite à ralentir et à offrir des respirations à nos vies trop remplies. Pour décrypter ce verbe très subjectif, nous sommes allés questionner Sylvain Lelarge, chez lui, à La Haye. Professeur de français installé depuis 40 ans aux Pays-Bas, son approche des langues est innovante, poétique et ludique. Il se définit comme un passeur de la culture française auprès des Néerlandais.
Niks vient de niks, qui veut dire rien. Il y a d'autres verbes qui veulent dire un petit peu la même chose, comme par exemple duimedraai, qui veut dire tourner les pouces. Mais niks est très concis. Niksen, c'est ne rien faire, ce qui est particulièrement difficile pour les Néerlandais. Les Néerlandais sont des gens efficaces, ils travaillent avec des listes. Mais en fait, ils le veulent, parce que les Néerlandais, ce sont des gens du Sud qui se sont perdus dans le Nord. Ils veulent toujours ce mode de vie détendu, mais il leur faut une bonne raison. Et une bonne raison, c'est d'avoir décidé qu'il fallait ne rien faire. Niksen, c'est donc ne rien avoir sur ta liste, c'est-à-dire ne pas avoir de liste même. Parce que la tentation, c'est bien sûr de mettre Niksen sur ta liste, et puis de le cocher. Aujourd'hui, j'ai rien fait aussi. Ça marche pas.
Apprendre à ne rien faire et s'en donner les moyens. Voilà le paradoxe des hyperactifs. Et puisque chacun a sa propre façon de ne rien faire, nous avons demandé à Sylvain de nous parler de son Niksen idéal.
D'après moi, ne rien faire, c'est être en roue libre. C'est-à-dire sortir, te laisser aller, sortir et rencontrer ce qui est là, qui t'attend, que tu n'avais pas prévu. Et je le fais avec délice. Niksen, pour moi, c'est être ouvert au nouveau et ne pas s'occuper de ce que je devrais faire. Dans la société du virus, bien sûr, il y a la tentation de se morfondre chez soi. Alors qu'en fait, on pourrait prendre cette occasion pour lekker niksen, ce qui veut dire jouir de ne rien faire. Bien pratiquer, c'est une sorte de bain de jouvence aussi bonne que la sieste. Tu te sors de toute obligation. Et c'est un art.
Enseignant et chercheur à la retraite, le sociologue Ruth Fenhoven, 79 ans, est professeur émérite à l'université Erasmus de Rotterdam. Installé près d'Utrecht, au cœur de la campagne néerlandaise, il continue à mener des recherches sur le bien-être et la qualité de vie et à écrire des articles sur le bonheur, une notion à laquelle il a consacré l'intégralité de sa carrière. S'il estime que les médias se sont emparés un peu artificiellement du mot Nixon pour l'ériger en concept néerlandais, il trouve que ne rien faire est un bon programme à l'heure où prime la culture de l'action.
C'est une notion qui attire l'attention. Et si cela nous semble étrange, c'est parce que nous vivons dans une société où on pratique peu le fait de ne rien faire. C'est face à un rythme de vie soutenu que tu commences à envisager de ne rien faire. Il y a des gens qui pratiquent vraiment cela. Ils commencent à méditer pendant la journée et parfois ils disent « Maintenant je ne fais rien, je regarde seulement par la fenêtre ». Je pense que quand on travaille tout le temps, c'est une très bonne chose de s'asseoir à la fin de la journée et de se détendre un moment, d'oublier ce sur quoi on travaille et de reprendre ensuite avec une énergie renouvelée. Un autre effet positif est que ne rien faire fait venir de bonnes idées lorsque tu es dans une impasse. Si pendant un moment, au lieu de te concentrer sur des choses en particulier, tu laisses tes pensées flotter librement, tu trouves de bonnes idées. J'écris des articles, et quand je ne trouve plus d'idées car je me suis trop concentré, alors je prends un livre ou je pars faire une promenade à vélo. Et à nouveau, les idées jaillissent. Je conseille à tout le monde de ne rien faire, mais pas trop longtemps, sinon on s'ennuie.
Nixon, c'est donc l'art de la détente cérébrale favorable à l'inspiration et à la créativité. C'est lâcher prise, observer un temps d'arrêt, échapper à la nécessité, ou encore se mettre sur pause et flâner pour se recharger. Tout est alors question de dosage, car comme le souligne Ruth Fenhoven, à ne rien faire pendant trop longtemps, on risque de finir par s'ennuyer.
Elle est féministe d'origine tadjik, la chanteuse Manija défraie la chronique en Russie. C'est elle qui représente le pays au concours de l'Eurovision, un événement très suivi par les Russes et qui fait chaque année l'objet de polémiques enflammées. Et l'édition 2021 ne fait pas exception à la règle, car le choix de Manija est loin de faire consensus, comme nous l'explique Étienne Bouche.
Lorsqu'elle retire son long manteau recouvert d'un châle russe traditionnel, Manija se dévoile sur scène en combinaison rouge vif. Basket blanche et turban bariolé, la chanteuse de 29 ans mêle le hip-hop et le folklore, le russe et l'anglais, dans une chanson qui aborde sans détour la condition des femmes en Russie. Des femmes sommées de se conformer à des stéréotypes. Déjà 30 ans et toujours pas d'enfant, t'es pas mal mais faudrait penser à maigrir. Voilà ce qu'on peut entendre dans cette chanson qui s'attire un déferlement de critiques sur YouTube. Manija ferait honte à la Russie. Des organisations conservatrices se sont indignées, mais pas seulement, puisque la présidente de la Chambre haute du Parlement russe, Valentina Matvienko, a elle aussi donné son avis.
Si vous ne connaissez pas le texte de la chanson, je vous encourage à aller voir. C'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne comprends absolument pas de quoi ça parle.
Les xénophobes et les sexistes russes sont horrifiés, selon le journal Novaya Gazeta. Car si les revendications féministes de Manija restent généralement incomprises, voire rejetées, l'origine de la chanteuse est l'autre versant de la polémique. Manija est d'origine tadjik, ses parents ont fui la guerre civile dans les années 90. Les ressortissants de cette ancienne république soviétique sont très nombreux en Russie, travaillent dans des conditions très difficiles et sont souvent méprisés par la population. Comment cette chanteuse, pas tout à fait slave ni tout à fait tadjik, comme elle se présente dans une de ses chansons, pourrait donc représenter la Russie à l'Eurovision? L'indignation est bruyante, mais elle ne doit pas faire oublier le choix des spectateurs. Sur la chaîne publique Pierre Vuicanal, c'est bien Manija qui a remporté les suffrages lors de la présélection.
Cette rediffusion du 7 avril était réalisée par Françoise Grelot. Vous pouvez retrouver toutes les éditions d'Accent d'Europe sur le site internet rfi.fr et sur vos plateformes d'écoute favorites. À bientôt.